Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les femmes dans la Bible, tel est le titre de la série d'émissions que nous vous avons proposées au long de cette année radiophonique, les lundis traditionnellement dévolus au sujet qui concerne la vie spirituelle. Les femmes dans la Bible, le titre avait de quoi surprendre, mais au long des mois, il nous a été donné de découvrir combien les femmes sont non seulement omniprésentes dans la Bible, mais surtout combien elles ont un rôle clé, celui de révéler Dieu, ou plus précisément de permettre à ce dernier de se révéler. Et ce n'est pas cette dernière émission en forme de conclusion sur les femmes dans l'évangile selon Saint Jean qui nous persuadera du contraire. Les femmes dans la Bible, sixième, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église en ce lundi matin. Dernière émission d'une de nos séries annuelles, série du lundi, série en partenariat avec la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse, qui elle-même a donné donc un cycle de conférences sur ce sujet. Est avec nous ce matin Marie-Christine Chou, vous êtes docteur en écriture sainte. Bonjour.
Bonjour.
Merci de faire un détour par nos studios. Alors, il faut être précis avec les auditeurs tout au long de l'année, ils l'auront remarqué, en tout cas pour les plus assidus, que l'émission est donnée en décalé. Vous donniez une conférence mardi dernier au Christ Roi dans le cadre de ce cycle, mais qui était en partenariat donc avec la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir les femmes dans l'évangile de Jean, mais comme à chaque fois, puisque pour nous c'est un peu de, on va dire, initiation à l'univers obscur ou un peu peut-être surprenant du travail d'exégèse que cette série d'émissions. Est-ce que vous pouvez nous dire, Marie-Christine Chou, comment ça vous est venu? Comment on devient exégète?
Alors au début, un petit peu par hasard, j'étais à l'époque enseignante dans un lycée catholique et on m'a demandé de prendre en charge des groupes de catéchèse de lycéens de terminale. Et je me suis vite aperçue que ce n'était pas simple de répondre à leurs questions. J'ai donc entrepris d'ouvrir la Bible et là, ça a été le coup de foudre. Voilà. Donc ce coup de foudre a
dû... C'est-à-dire que, pardon d'être à mon indiscrétion, mais vous ne l'aviez pas ouvert avant?
Je l'avais ouvert, mais avec un regard plus... Alors je n'ose pas dire en dilettante, mais c'était différent. Là, je le regardais avec l'idée qu'il me fallait répondre à des questions d'adolescents, et parfois des questions très pointues, et auxquelles je ne savais pas forcément répondre.
Est-ce que vous pourriez dire... alors d'autres ont dit la même chose que vous, hein, comme un... Comment dire comme un premier choc ou une forme de révélation. En fait, un coup de foudre, ça veut dire quoi?
Eh bien, le coup de foudre, ça a été quand j'ai ouvert, justement, l'évangile de Jean et le prologue. Et ces premiers versets de l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était tendue vers Dieu, etc., ont été pour moi quelque chose de... Je ne peux pas dire exactement, d'inouï. Et à partir de là, tout est parti. Voilà. Mais ça a été un long, long parcours et parfois très difficile. Parce que me familiariser avec l'Ancien Testament, c'était parfois difficile. Surtout que j'avais un professeur, puisque j'étais inscrite à des cours par correspondance, le TEP, le père Monloubou, Louis Monloubou, qui est décédé depuis, qui était un exégète remarquable, mais extrêmement sévère.
Alors pour ceux, puisque c'est aussi l'objet de cette série d'émissions, qui seraient un peu intimidés ou qui auraient suivi cette série d'émissions ou parfois d'autres émissions de Vivante Église ou de notre antenne à propos des Écritures Saintes, qui trouvent qu'à chaque fois il y a des choses fort intéressantes qui sont dites, fort intéressantes pardon, et savantes, mais qui eux ont du mal à rentrer dans les Écritures, est-ce que vous auriez en préambule de cette émission quelque chose pour les décomplexer ou les aider à se lancer?
Alors moi j'ai commencé tout simplement par le premier niveau que proposait le TEB à l'époque. Il y avait trois niveaux.
Alors le TEB c'était...
C'était enseignement biblique, je crois qu'aujourd'hui ça s'appelle Toulouse enseignement biblique, enfin bon. Ça avait été créé par le père Monloubou, c'était dans les années 85-89.
Donc un parcours d'études de l'écriture sainte,
voilà,
de l'Institut catholique de Toulouse.
Voilà, exactement. Et donc... je pensais que je pouvais, dans ma prétention, commencer déjà par le second niveau ou le troisième, puisque j'avais fait un petit peu d'études universitaires. Et le père Monloubou m'a dit tout simplement, ma petite dame, en matière de Bible, vous allez commencer par le jardin d'enfants. J'ai donc commencé par le niveau 1 et ça a été très très profitable. Parce que c'est très
profitable et très progressif, parce que ma question
c'était
comment arriver à les décomplexer.
Voilà, j'allais vous le dire, très progressif, parce que c'est tellement bien fait qu'on avance pas à pas et comme ça, on ne se rend pas compte, on absorbe petit à petit les difficultés.
En tout cas, à vous entendre, ça veut dire qu'il faut, il faut se faire accompagner, comme souvent dans,
ah oui, je pense,
dans ça, la vie chrétienne.
Oui, je crois que c'est... Oui.
Alors, vous concluez cette série de conférences dont j'ai parlé par une conférence qui porte, elle, sur les femmes de et dans l'évangile de Jean. Je commencerai peut-être par la fin, au risque de vous surprendre. L'évangile de Jean, vous le dites au début de votre propos, que les personnes féminins peuvent apparaître secondaires, quand en fait c'est peut-être un évangile au féminin, dites-vous, en point d'interrogation, c'est-à-dire ?
Alors ça se découvre petit à petit. Il faut étudier chaque personnage féminin pour se rendre compte et le mettre en tension, en parallèle avec des personnages masculins pour se rendre compte de l'importance de chacun de ces personnages féminins. Le premier des signes qui m'est apparu, et que d'autres ont relevé, je ne l'ai pas découvert, c'est qu'il y a 7 récits qui mettent en scène ces femmes. Or, le chiffre 7 est vraiment un chiffre symbole dans l'évangile de Jean. Il y a les événements des premiers jours sont racontés en 7 jours. Il y a 7 signes, il y a 7 fois la fameuse expression « je suis », qui est l'expression par laquelle Dieu se révèle à Moïse sur le mont Horeb et qui est repris par Jésus 7 fois. Alors 7 fois avec un adjectif qualificatif, 7 fois seul, c'est-à-dire dans son sens absolu. C'est donc un chiffre qui est reconnu par les exégètes comme un chiffre symbole chez Jean. Et là, il y a 7 récits qui mettent en scène des femmes. Donc c'est évidemment... Alors évidemment, Jean aussi... Ce chiffre 7 fait référence aux 7 jours de la création. Et donc, on voit très bien que, par exemple, le récit de la résurrection, le chapitre 20, commence, alors en français on ne le voit pas trop, mais en grec on le voit, exactement avec les mêmes mots que le récit de la création en grec, dans l'Ancien Testament.
Alors au féminin, pourquoi ? Parce que du coup, ce que je comprends dans votre propos, c'est que les femmes ont un rôle clé, comme je le disais dans l'introduction, un peu de révélation de qui est
elles
Jésus.
Elles ont un rôle clé. D'abord, elles sont des interlocutrices à part entière avec Jésus. Alors, c'est assez différent des autres évangiles. Vraiment, elles rentrent en dialogue avec Jésus. Et un dialogue qui en fait des partenaires, des véritables partenaires. Et puis toutes ces femmes reconnaissent, chacune à un moment différent, qui est Jésus.
Alors on va commencer par la première et non des moindres, puisque, et vous commencez par ça donc, par Marie. Marie, vous dites que dans l'évangile donc, de Jean, elle est présente au début et à la fin.
Alors au début de la mission de Jésus
à Cana,
et à la fin, à la croix.
Et au pied de la croix.
Ouais.
Et alors vous arrêtez donc sur la manière dont Marie est désignée dans l'évangile de Jean, où elle n'est pas désignée, donc sauf faire de ma part si je vous ai bien lu, comme Marie, mais comme la mère de Jésus.
Alors il y a deux...
Mère de Jésus et femme, pardon.
Voilà, il y a deux terminologies. Il y a lorsque le narrateur parle d'elle... Il parle d'elle en tant que mère de Jésus, c'est assez exceptionnel, hein. Les autres l'appellent Marie, les synoptiques, ce n'est pas le cas là. Et quand Jésus s'adresse à sa mère, il l'appelle femme. Voilà, alors je l'ai lu, évidemment la mère de Jésus dans son évangile où il n'y a pas de récit de l'enfance, il était important, il me semble, de marquer ce lien matriciel qui permettait de signifier l'incarnation. Voilà, et c'était extrêmement important. L'incarnation de la parole de Dieu qui rentre dans le monde. Et Marie est celle par qui Jésus rentre en humanité.
Alors si vous prenez l'illustration par le récit de Cana...
Voilà, et c'est évidemment, elle introduit Jésus, c'est la première fois que Marie apparaît, que la mère de Jésus apparaît dans cet évangile, et c'est elle qui introduit Jésus dans sa mission, puisque ça va être le premier signe qu'il va poser.
Voilà, donc elle informe son fils.
Elle informe son fils du manque de vin.
Et elle est désignée comme Marie, mère de Jésus.
Elle est appelée la mère de Jésus et elle ne lui demande pas de faire quoi que ce soit. Elle lui signale qu'il n'y a pas de vin. Voilà.
Alors si on en reste à l'autre qualificatif qui est femme, pour ceux qui connaissent un peu les écritures, dans ce récit de Cana, Jésus s'adresse à elle en lui disant femme.
Oui.
Parfois on peut être un peu surpris, c'est une espèce de prise de distance. Vous, quelle lecture vous en faites ?
Oui, alors il le dit aussi à la Samaritaine, il le dit à Marie de Magdala, donc il n'y a pas qu'à sa mère qui le dit, mais là... j'ai lu dans la mise en parallèle entre le terme de mère de Jésus et femme, j'ai vu un élargissement du regard qui fait de chaque femme une si vous voulez une Ève, enfin, qui est capable de d'accueillir la parole de Dieu et de la retransmettre ensuite. Voilà. Dans le passage de mère à femme, j'ai vu un élargissement du terme de la mère de Jésus. On passe à chaque femme, à toutes les femmes, qu'elles soient mères dans leur chair ou mères sur le plan spirituel, elles sont porteuses de vie et donneuses de vie.
Alors si on continue donc à parler de Marie pour finir, avant qu'on fasse une première pause, finir cette première partie, j'entends, là aussi donc quand Marie est au pied de la croix, elle est désignée dans l'évangile de Jean donc à la fois comme la mère de Jésus et comme femme, peut-être rappeler la situation un peu particulière, puisque celui qui a écrit a priori l'évangile de Jean, c'est aussi celui qui était au pied de la croix, non ?
Voilà, c'est ce que dit ce serait le disciple aimé. Les débats sur qui est l'auteur exact de l'évangile de Jean sont extrêmement nombreux, conflictuels, mais on reconnaît que le narrateur serait, puisqu'il se désigne comme tel à la fin, serait le disciple aimé. Et ce qu'il y a de remarquable au pied de la croix, c'est qu'on voit que Jésus s'adresse d'abord à sa mère pour lui confier son fils, et ensuite, en deuxième temps, il s'adresse au fils pour lui confier sa mère. Donc elle a aussi encore cette priorité qu'elle a à Cana. Voilà. Et si vous voulez, au-delà.
Et la première fois, il la désigne comme
Non, je veux dire qu'il s'adresse à elle, il lui dit femme. Hein,
toujours femme. Voilà,
toujours femme. Quand Jésus s'adresse à sa mère, il l'appelle toujours femme.
Oui, il ne va pas l'appeler mère de Jésus. Oui,
mais en fait, on voit que de même qu'elle l'avait introduit. Qu'elle avait introduit Jésus dans sa mission, finalement Jésus, en la désignant en premier, fait d'elle en quelque sorte celle qui introduit dans le temps de l'après, dans le temps de l'Église, puisqu'à travers cette scène, c'est en quelque sorte les germes de l'Église qui se construisent.
Alors il y a un autre terme sur lequel vous vous arrêtez quand vous parlez de Marie dans l'évangile selon saint Jean, qui n'a pas forcément un lien direct peut-être avec le fond de votre propos, mais vous dites, vous arrêtez sur le « déjà là ». Dans oui. À Cana, il est dit qu'elle était déjà là.
C'est extrêmement important.
Et au pied de la croix, être là.
Voilà, donc voilà, ça dit une antériorité de Marie. Et ça dit aussi que c'est par elle que Jésus rentre en humanité. Alors déjà là, à Cana, ça dit Cana, l'identité est très bien définie un petit peu plus loin dans le texte, il est dit qu'il y avait 6 jarres d'eau pour la purification. Donc ces 6 jarres signent l'identité de ce lieu, c'est le peuple de la loi. Et Marie est dans le peuple de la loi. Et c'est dans ce peuple de la loi que Jésus vient, que la parole de Dieu s'incarne. C'est pour ça qu'il est important d'insister sur ce déjà-là.
Ça, c'est déjà-là dans l'évangile.
Voilà, et c'est la même chose au pied de la croix.
Être là, c'est être là.
Être là, voilà. C'est cet être-là de Marie dans le monde. Et elle est celle qui accueille la parole de Dieu.
Allez, on va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver pour continuer à parler des femmes dans l'évangile selon saint Jean. On s'arrêtera dans cette deuxième partie sur des femmes qui, à vous lire, occasionnent la révélation de la mission de Jésus. La Samaritaine, la femme adultère et deux autres femmes, deux sœurs, Marthe et Marie.
Thank you. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les femmes dans la Bible, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce lundi, sixième émission de cette grande série annuelle, dès lundi, en partenariat donc avec la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Et ce matin, c'est Marie-Christine Chou qui est avec nous, qui est docteur en écriture sainte, pour nous parler donc des femmes dans l'évangile, selon saint Jean. Alors vous arrêtez sur d'autres figures, on va en parler dans un instant, la Samaritaine, la femme adultère, de sœurs Marthe et Marie. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être un petit peu mon propos introductif qui ne faisait jamais que s'inspirer de la plupart des conférences de cette année et de la vôtre entre autres, sur cette manière qu'ont les femmes dans l'évangile selon saint Jean selon vous, et celle-là en l'occurrence, quoi, de révéler Dieu ou Dieu se sert des femmes pour se révéler? Comment vous expliciteriez ça?
Alors, je pense que Jésus rentre en dialogue avec ces femmes, mais la Samaritaine, c'est tout à fait étonnant. La mère de Jésus, Marthe et Marie, Marie de Magdala, appartiennent au peuple de la loi, appartiennent au peuple juif. La Samaritaine, c'est une hérétique. Donc, l'épisode se situe au début du chapitre, au chapitre 4. Jésus est en Judée et il doit se rendre en Galilée. Or, il pouvait très bien aller d'un endroit à l'autre sans passer par la Samarie.
Et rappelez qui étaient les Samaritains.
Alors voilà, je vais l'expliquer. Mais d'abord, je voulais préciser que le texte nous dit qu'il devait, alors il fallait qu'il passe par la Samarie. Or, ce verbe dans l'écriture signifie qu'il y a un projet, ce verbe impersonnel, il faut que, signifie toujours qu'il y a un projet de Dieu. Alors pourquoi fallait-il qu'il passe par la Samarie? La Samarie, c'est le peuple, ce sont les ennemis des Judéens. Hein, depuis qu'il y a eu la rupture du royaume de Salomon en deux, avec en haut le royaume d'Israël et au sud le royaume de Judée.
Le royaume d'Israël qui était aussi appelé le royaume de Samarie.
Voilà, exactement. Ouais. Donc c'était vraiment, il y avait des conflits, les Judéens considérant que les Samaritains étaient des hérétiques. Et en particulier, un des points de ce conflit, c'était qu'ils ne reconnaissaient pas, les Samaritains ne reconnaissaient pas le temple de Jérusalem, donc comme lieu de la présence de Dieu. Donc il y avait vraiment un conflit, mais c'était très 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 fort. Donc que Jésus décide de passer par la Samarie, et le texte nous dit que ça appartient au projet de Dieu, c'est déjà, ça doit nous alerter. Deuxième point, Jésus prend l'initiative d'interpeller cette femme pour lui demander à boire.
Alors qu'ils sont seuls, tous les deux.
Alors qu'ils sont seuls, mais ils sont quand même dans un lieu public, puisqu'ils sont près du puits. Que Jésus rentre en conversation avec une femme dans un lieu public, ça aussi, un rabbi, c'est quelque chose qui était assez étonnant. D'ailleurs, ses disciples lui diront un peu plus loin dans le texte. Ils s'étonneront qu'il ait parlé avec cette femme. Voilà. Et il va évidemment rentrer en conversation avec elle. Et petit à petit, en partant de ce qu'est cette femme, il va l'amener à comprendre ce que lui est.
Alors vous rappelez aussi que ce passage est après l'épisode du temple, voilà. Où Jésus a chassé les marchands du temple.
Voilà, où Jésus a chassé les marchands du temple. Pour Jésus, ce temple, c'est la présence de Dieu parmi les hommes. Il manifeste, il a pour le temple le plus profond respect, mais pour un temple qui est vraiment le lieu de la rencontre et pas un lieu, ce qu'il était peut-être devenu, où se faisaient des échanges commerciaux, etc.
Voilà. Parce que là, le cœur de la conversation, entre guillemets, c'est qui est Dieu ou c'est où est Dieu? Où est-ce qu'on
vous
peut le trouver?
Vous parlez de quel épisode?
Jésus et la Samaritaine?
Ah oui, ça va être ça. Il ne va pas commencer par là, il va commencer par lui parler de l'eau.
Mais le cœur de la conversation, c'est dans le fond...
C'est de présenter que le nouveau temple de Dieu, ça n'est pas nécessairement un temple de pierre, mais c'est un temple, c'est le cœur de l'homme où se fait la rencontre avec Dieu. Et avec Jésus, voilà.
Donc si on revient sur, on va dire, pour essayer de bien prendre par la main les auditeurs, que la Samaritaine contribue à révéler de la personne de Jésus, là en l'occurrence, c'est...
Voilà, c'est d'abord, c'est qu'il est cette présence de Dieu dans le monde. Voilà. Alors, est-ce qu'elle le comprend ? Elle lui dit d'ailleurs qu'il est le Messie, le Christ, mais est-ce qu'elle le comprend vraiment dans le sens où ensuite ce sera compris par les chrétiens, ou est-ce qu'elle le comprend parce que la foi juive attend aussi un Messie ? Mais ce n'est pas forcément un Messie tel que sera Jésus. C'est un Messie qui est peut-être comme le roi David ou Salomon.
On avance. Donc là, la Samaritaine, c'est dans l'Évangile selon saint Jean. Rappelez-moi, c'est quel chapitre ?
C'est le chapitre 4.
Chapitre 4. On avance chapitre 8. Cette fois, c'est donc la femme adultère ou la femme pardonnée. C'est peut-être un passage des Écritures qui est plus connu. Mais malgré tout, si vous deviez commencer par le resituer et surtout le contextualiser, vous dites entre autres que c'est un récit qui arrive à la fin de la fête des tentes, c'est ça ?
Oui. Oui, qui est une fête par excellence où on fête entre autres la loi, et c'est au nom de cette loi justement, de cette Torah, que les pharisiens et les prêtres vont amener la femme adultère auprès à Jésus, parce que évidemment la loi prévoyait que ces femmes adultères et puis également celui avec lequel elle avait commis l'adultère soient lapidées. Donc c'était une forme de piège qui était tendue à Jésus.
Avant ça, rappelez, la fête des tentes, c'était quoi plus précisément ?
C'était la fête de la loi qui signait l'alliance entre le peuple de Juifs et Dieu, qui évoquait aussi le passage dans le désert, où le peuple juif avait dormi sous des huttes.
Et le choix de Jérusalem comme lieu pour signifier l'alliance.
Voilà, et le choix de Jérusalem pour signifier l'alliance avec Dieu, entre Dieu et son peuple.
Alors pourquoi vous arrêtez sur cette figure ? Pourquoi vous avez choisi de vous arrêter sur cette figure ? Qu'est-ce qu'elle
sur la femme samaritaine. D'abord parce que
sur la femme adultère.
Ah pardon, excusez-moi. Sur la femme adultère parce que alors donc ils amènent cette femme à Jésus et si Jésus évidemment lui pardonne, d'abord s'il lui pardonne pas, il va se manifester. Bon, il est comme tout le monde, il respecte la loi, mais il ne fait pas preuve de miséricorde particulière. Mais s'il lui pardonne, ce qu'il va faire, s'il invite au pardon, ça veut dire qu'il se place au-dessus de la loi et qu'il se fait l'égal de Dieu. Deux des trois prérogatives de Dieu dans la foi juive, c'est qu'il donne la vie, qu'il juge, qu'il ressuscite. Donc là, que va faire Jésus ? S'il pardonne à la femme adultère, ça veut dire qu'il se place au-dessus de la Torah et il se fait l'égal de Dieu. Il blasphème. Effectivement, d'ailleurs, l'intention est bien marquée dans le texte. Et que fait Jésus ? Alors Jésus ne va pas lui dire directement « je te pardonne ». Il va simplement demander à ceux qui n'ont jamais péché, voilà, vous connaissez l'histoire de lancer la pierre et tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va et laisse la place libre. Donc c'est une manière extrêmement fine, n'est-ce pas, d'amener à la conscience que au-dessus de la Torah, il y a la miséricorde de Dieu.
Alors vous dites aussi qu'il y a comme deux temps, parce qu'à chaque fois vous soulignez que Dieu ne se sert pas des femmes, mais il entre réellement en conversation avec oui. elles. Là aussi, on passe peut-être trop rapidement au-dessus pour ceux qui connaissent un peu ce passage d'écriture. Oui. Après, quand tout le monde est parti, il y a vraiment un dialogue entre l'un et l'autre.
Voilà. Jusque-là, elle est prisonnière d'un cercle, puisqu'elle est entourée de ceux qui vont la condamner. Mais quand ils s'éloignent les uns après les autres, ce cercle s'ouvre et elle se trouve seule. Elle n'avait pas parlé jusque-là. On ne lui avait pas laissé la parole. Et elle se trouve seule en présence de Jésus. Et Jésus lui demande si quelqu'un la condamne et elle répond personne. Donc elle va rentrer en dialogue. Et Jésus lui dit, moi je ne te condamne pas et je ne te condamne pas non plus, mais ne pêche plus. Voilà. Donc là, elle rentre en dialogue puisqu'elle répond à Jésus. Et donc Jésus se manifeste à elle comme celui qui a la capacité de pardonner parce qu'il est Dieu, parce qu'il est de nature divine, parce qu'il est Dieu. Voilà.
Vous avez peut-être trouvé ma question provocante, mais à chaque fois, en tout cas la Samaritaine et cette femme, on peut aussi se dire que c'est un peu malgré elle quelque part. Que Dieu se sert d'elle comme.
Oui, mais elle pourrait. Enfin bon,
c'est lui qui est complètement à la manœuvre et bon, la femme est là, mais.
Alors, est-ce que c'est vraiment le cas ? La Samaritaine, il lui demande à boire, mais elle pourrait ne pas donner suite, si j'ose dire. Elle rentre en dialogue avec lui. La femme adultère, évidemment, est amenée par les juges. Elle n'a pas tellement le choix. Elle ne peut rien faire d'autre que d'être là. Mais quand tout le monde est parti, elle reste. Donc, il y a quand même de leur part un exercice de leur liberté. Voilà.
Et un choix de, rentrer en relation vraiment avec Jésus.
Voilà.
Même après qu'il ait dit des choses, on va dire, plus que déroutantes.
Voilà, plus que déroutantes. Et, enfin, pour ce qui concerne la femme adultère, il lui pardonne. Enfin, il l'invite à... Il ne la condamne pas.
On peut imaginer qu'elle était déroutée elle-même.
Elle devait être déroutée, oui. Oui, oui, c'est certainement. Mais enfin, elle est là. Et voilà, elle est là avec Jésus.
Et ensuite, ce sont deux sœurs sur lesquelles vous vous arrêtez, donc Marthe et Marie, aussi c'est bien connu, l'histoire de Béthanie. Jésus se rend auprès d'elles parce que leur frère, donc Lazare, est mort, c'est ça, hein ?
Enfin, quand elle s'appelle Jésus pour...
Il est malade, oui.
Il est encore malade.
Oui. Alors, Marthe et Marie, c'est vrai que c'est un tandem dont on entend souvent parler dans les Écritures. Si vous deviez commencer par les représenter, par exemple, vous faites cette précision, vous dites que le nom dans le judaïsme, c'est essentiel et que Marthe, ça a une signification particulière.
Alors, il est vrai que d'abord, je voudrais dire que la façon dont Marthe est représentée dans l'évangile de Jean peut dérouter par rapport à l'image qu'en donne l'évangile de Luc et surtout les commentaires qu'en font les différents exégètes de cette intervention de Marthe dans l'évangile de Luc, où elle n'a pas toujours forcément le beau rôle, puisqu'on la voit qui interpelle Jésus et qui, d'une certaine façon, n'est pas contente que sa sœur ne l'aide pas, etc. Donc, dans l'évangile de Jean, c'est complètement différent. Donc Marthe apparaît avec sa sœur dans un premier temps et elles font appeler Jésus parce que l'ami de Jésus, hein, celui que Jésus aime, comme il aime Marthe et Marie, c'est dit très nettement dans les sept épisodes, est malade. Et Marthe en araméen, ça veut dire Mar, c'est une racine qui signifie la force et qu'on pourrait presque traduire par Seigneur. Donc déjà le nom donne une idée, vous savez, c'est important, le nom dit quelque chose de la personne. Et là, justement, ça n'est pas traduit. Dans l'évangile de Jean, on voit que souvent les noms sont traduits. Là, ça n'est pas traduit. Donc ça veut dire que celle qui occupe qui est là, par ce qu'elle fait dans le rôle qu'elle joue dans l'épisode qu'elle occupe et dans l'évangile, est suffisamment significatif pour qu'on n'ait pas besoin de traduire le nom. Hein, elle a un rôle d'autorité, voilà ce que je veux dire.
Alors son autorité en l'occurrence, c'est que la foi qu'elle a en Jésus, même que son frère est mort, et donc qu'elle déclare au Christ, enfin après s'être se reprenant, hein, elle lui dit « si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort », et après « je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera ». Si vous devez recontextualiser, qu'est-ce qu'elle affirme de si grand à ce moment-là?
Lorsque Jésus donc apprend qu'il est malade, que l'ami est malade, au lieu d'aller à Béthanie, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de ne pas y aller parce que, entre guillemets, il voudrait que Lazare meure parce que ce signe de la mort de Lazare va être un des éléments de sa glorification. Effectivement, il faut que Lazare meure pour que Jésus puisse le rappeler à la vie.
Il le dit lui-même, Jésus, je crois, d'ailleurs.
Il le dit lui-même. Donc, lorsqu'il arrive à Béthanie, Marthe va au-devant de Jésus et il est déjà mort, son frère est mort. Et là, évidemment, elle pourrait évidemment manifester quelques... D'ailleurs, elle lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais elle ajoute tout de suite, c'est déjà quand même, ça prouve une disposition, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Et donc, Jésus lui promet qu'il va ressusciter. Alors, il ne lui promet pas que lui va ressusciter Lazare, mais il lui dit « ton frère ressuscitera ». Et c'est vrai que dans la foi juive, dans le judaïsme, dans la foi juive, on croit à la résurrection des morts, mais à cette résurrection des morts à la fin des temps. Or Jésus lui dit « non, 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 je suis moi là la résurrection et la vie ». Et à la fin des temps, c'est maintenant. Et Marthe a ce qui est pour moi la plus belle profession de foi de cet évangile, elle dit « Oui, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Donc, elle reconnaît en Jésus sa nature divine, puisque s'il vient dans le monde, c'est qu'il est ailleurs. Il est cette parole de Dieu qui est au commencement.
Parce que souvent dans les évangiles, on dit que c'est Pierre qui a cette...
Voilà, alors Pierre dans l'évangile de Jean parle de Jésus.
C'est à Pierre qu'il est
donné. Tu es le Saint de Dieu. Mais dans le judaïsme, c'est un autre sens. Ça a un sens très fort. ça ne dit pas forcément ce que dit cette trilogie, en même temps, le Messie, le Christ, ou le Messie, elle dit, le Messie, le Fils de Dieu, le venant dans le monde.
Donc dans l'évangile de Jean, c'est une femme qui proclame en fait voilà, qui est le Christ.
Qui le proclame au centre de l'évangile. Et ce sera repris ensuite à la fin de l'évangile par le disciple aimé, tout à fait à la fin du chapitre 20. Le disciple aimé dira, enfin il ne le dit pas au style direct, il est le narrateur, que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, mais il ne dira plus le venant dans le monde parce que la résurrection a donné à ces deux titres leur valeur, exprime déjà la nature divine de Jésus. Mais au moment où Marthe parle, il n'y a pas encore cette conscience, si vous voulez. Elle le dit uniquement sur ce que Jésus, elle fait confiance aux paroles de Jésus.
Donc à l'intérieur de l'évangile selon saint Jean, la Samaritaine, la femme adultère et Marthe, en l'occurrence, si on s'arrête juste sur ces oui. trois figures, elle révèle donc...
Et Marie aussi par l'onction, qui ensuite vient, Marie la sœur de Marthe, qui quelques versets plus loin... Jésus revient à Béthanie, il est parti entre-temps après Marthe, bon, il faut quand même résumer un petit peu. Marthe donc accueille Jésus à Béthanie et Jésus donc rappelle à la vie Lazare. Il s'en va et enfin on apprend que les nouvelles arrivent à Jérusalem par quelques-uns qui viennent le dire aux autorités religieuses et qui cette fois-ci condamnent Jésus à mort et demandent à ce qu'on l'arrête. Donc c'est vraiment le point de bascule de l'évangile vers la croix. Donc Jésus était parti, revient maintenant à Béthanie, et là Marie l'accueille et oint ses pieds avec un parfum de grand prix et l'essuie avec ses cheveux.
Donc il faut préciser que dans l'évangile selon saint Jean, c'est Marie, la sœur de Marthe, qui oint les pieds de Jésus.
Voilà. Et Jésus lit son geste comme l'annonce de sa mort. Voilà.
Donc on a quatre femmes qui annoncent quel est le vrai lieu d'adoration ?
Voilà.
Donc en fait, dans le cœur de chacun, c'est ça ?
Oui.
Un Dieu qui pardonne.
Un Dieu qui pardonne et un Dieu qui est de vie, puisqu'il va rappeler à la vie Lazare. Donc Jésus est vraiment celui qui est la parole de Dieu parmi les hommes, puisqu'il présente les deux caractéristiques, les deux prérogatives divines, le jugement et la vie.
Allez, on va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour parler d'une autre figure, Marie de Magdala, et puis en forme de conclusion pour votre conférence et peut-être aussi cette série annuelle. On se dit que contrairement à bien des idées reçues, décidément, le Dieu des chrétiens se révèle par les femmes. Vous avez votre petite idée quant à la raison de tout cela.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Les femmes dans la Bible, sixième et dernière émission pour, de cette grande série annuelle pour ceux qui nous rejoindraient, qui est donc le titre aussi donc d'une série de conférences données par l'Institut catholique de Toulouse, plus particulièrement sa faculté de théologie. Et ce matin, est avec nous Marie-Christine Chou, qui est docteur en écriture sainte, et donc pour une dernière conférence que vous avez donnée la semaine dernière sur le thème, donc sur le thème, j'oublie à chaque fois l'intitulé exact,
les femmes
de et dans l'Évangile de Jean. Alors, dernière figure sur laquelle vous vous arrêtez, là aussi c'est une figure bon, quand même connue des chrétiens, mais vous allez nous dire pourquoi vous souhaitez vous y arrêter plus longuement. C'est donc Marie de Magdala, la Marie donc qui est au tombeau. Dans l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'il y a comme différence peut-être pour commencer par ça avec, avec les autres évangiles, ou comment Marie est-elle présentée et située là?
Bien là, c'est une rencontre avec Jésus qui fait l'objet d'un long développement narratif. Vraiment, il y a le récit d'une rencontre de cette femme avec le ressuscité. Et c'est par elle que les disciples vont être informés de la résurrection de Jésus. Enfin, cette chose inouïe qui fonde notre foi chrétienne, c'est à cette femme, Marie de Magdala, que Jésus va le révéler.
Alors vous dites que ça commence, et tout a de l'importance là pour vous, ça commence le jour 1 de la semaine au tombeau dans la ténèbre.
Voilà, parce que ça reprend les termes, alors en grec, hein, puisque la Septante donne ce récit de la Genèse en grec, ça reprend les mêmes termes, jour 1 et ténèbres au singulier. Donc l'évangile de Jean nous montre que cette création qui avait été commencée, dont le récit était fait au début de la Bible, maintenant s'accomplit dans la résurrection de Jésus, la parole de Dieu venue habiter parmi les hommes. Donc c'est l'accomplissement de la création, et à travers la résurrection de Jésus, c'est le sens donné à la création et à la vie humaine. La vie humaine, Paul le dira plus, l'avait dit avant, puisque les épîtres sont antérieurs à la mise par écrit de l'évangile, mais enfin, le sens de la vie humaine, la mort n'est plus une fin. Hein, le non-sens que pourrait donner la mort à la vie humaine est disparu, puisque la mort dorénavant est vaincue par la résurrection du Christ. Nous sommes invités à participer à cette résurrection dans la foi.
Alors vous avez aussi une phrase qui m'a un tout petit peu surprise. Malgré la présence de Pierre et du disciple aimé, le narrateur a la volonté d'individualiser l'événement autour d'un seul personnage, celui de Marie de Magdala. Je ne suis pas allé me replonger dans ce passage des Écritures, mais souvent en fait c'est deux passages différents, non?
Ah non, c'est le même chapitre. Hein. On voit Marie de Magdala qui arrive au tombeau et qui voit le tombeau vide. La pierre a été roulée. Qu'est-ce que fait-elle? Elle a peur. Elle court appeler Pierre et l'autre disciple, le disciple aimé, qui arrive à leur tour.
Mais qui arrive et elle est là à nouveau.
Elle est là, voilà. Ils arrivent donc et ils voient le tombeau vide. Alors on nous dit du disciple aimé qu'il voit et il croit. Mais qu'est-ce qu'on nous dit après? Qu'il retourne chez eux. Alors, avec tout le respect, je dirais presque tranquillement. Et qui est-ce qui reste là et qui va rencontrer le ressuscité? C'est Marie de Magdala. À qui le ressuscité va-t-il se manifester? À Marie de Magdala.
Alors, racontez-nous à nouveau ce dialogue, parce que c'est vrai qu'on s'y habitue,
donc,
mais ça n'est pas rien que de l'appeler par son prénom.
Elle ne reconnaît pas Jésus. Elle le prend pour le jardinier. Et elle demande où est-ce qu'on l'a mis. Enfin, elle est en pleurs. D'ailleurs, les pleurs sont répétés plusieurs fois. Les pleurs manifestent la réalité de la mort de Jésus. Hein. Il est vraiment mort. Et elle le pleure parce qu'il est mort. Et puis elle voit cet homme qu'elle prend pour le jardinier. Et c'est assez remarquable qu'elle ne le reconnaît que lorsque Jésus l'interpelle par son prénom. C'est un des passages qui me...
C'est souvent difficile à comprendre, ça.
Qui me bouleverse. Il l'appelle Marie, et là, elle le reconnaît, elle lui dit Rabbi, ou Rabouni.
Et vous rappelez que ça n'est, c'est très rare, quelque part, en fait, qu'à cette époque, on appelle une femme par son prénom, c'est ça?
Voilà, et puis c'est surtout que ça dit que Jésus renoue la relation que la mort avait interrompue. Voilà, il renoue cette relation que la mort avait interrompue, et Marie le reconnaît, donc ça veut dire que ce n'est pas, excusez-moi l'expression, ce n'est pas un fantôme. Mais en même temps, il lui dit de ne pas la toucher, de ne pas le toucher. Donc, ça dit une présence, mais une présence autre. Voilà.
Donc, pour reprendre le fil de votre conférence, la Samaritaine, c'est le lieu, en fait, le vrai lieu de l'adoration qui est le cœur. La femme adultère, un Dieu qui pardonne. Marthe et Marie, c'est la reconnaissance de la messianité de Jésus, c'est ça ? Et
La Samaritaine, c'est aussi l'ouverture aux autres, l'universalisation du salut. D'ailleurs, ses co-régionnaires lui diront à Jésus, tu es vraiment le sauveur du monde. Donc, par la Samaritaine, il ouvre l'espérance pas seulement au peuple juif, aux autres, aussi aux hérétiques, finalement.
Et là, dans cette relation, à nouveau, on va dire, intime, en tout cas réellement interpersonnelle, qu'est-ce que Jésus vient finir de révéler ?
Il révèle, il donne l'accomplissement de la révélation, c'est-à-dire que justement, il se manifeste, la mort n'est plus une fin, il est là, vivant. Il est vivant et il est pour nous l'espérance de cette vie, au-delà de la mort. C'est le fondement de la foi chrétienne.
Alors après, là aussi, question peut-être un peu provocante, parfois avec les exégètes, j'espère ne pas vous choquer, c'est qu'on se dit, ils ont un prisme d'étude d'un texte, et parfois ils ramènent un peu tout à leur idée première.
Oui, mais je fais peut-être pareil moi aussi, hein. Je fais exactement la même chose en donnant ce rôle aux femmes, peut-être que... Mais bon, si on avait le temps, on pourrait les mettre en parallèle avec les personnages masculins. Et on s'aperçoit, évidemment, ils ont un rôle essentiel, mais on s'aperçoit souvent, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas cette adhésion immédiate et totale dans l'évangile de Jean, en tout cas, que personnellement j'ai lu dans ces personnages féminins.
Alors venons-y justement quelque part à la question point d'orgue de cette série, c'est que à vous entendre comme à entendre, alors vous parlez pas au nom de tous les intervenants année, mais que les femmes auraient quoi une capacité en fait vous avez cette phrase suivante, elles accueillent la révélation, donc ces femmes elles accueillent la révélation de la personne de Jésus, la femme johannique permet à Dieu de naître en l'humain, pour que l'humain puisse à son tour être enfanté en Dieu.
Voilà, exactement. C'est parce que si on accueille l'incarnation, Jésus, en s'incarnant, nous manifeste que la vie humaine, d'abord, a un sens, parce qu'elle n'est pas la mort, n'en est pas la fin. Mais, et donc, si on accueille Jésus, si ces femmes accueillent Jésus, ce qu'elles font, là, ces six femmes johanniques, elles nous permettent à nous, et alors Marie de Magdala aussi, elle porte ce message de la résurrection aux apôtres qui attendent, et on sait bien comment Thomas va réagir. Donc elles ont vraiment cet accueil qui nous perd du sens de la foi chrétienne. Elles accueillent Jésus comme fils de Dieu et comme à travers son incarnation, promesse pour nous d'une humanité qui sera associée ensuite à Dieu, et donc qui sera appelée à vivre.
On sort un peu de votre conférence, mais qu'est-ce que les femmes ont de plus que les hommes ou de différent, selon vous, qui fait qu'elles auraient cette place ou cette grâce quelque
part ? Je dois vous dire quand même que je ne suis pas féministe, soyons clairs, et que parfois... certains débats ont quelques pouvoirs de par leur excès un petit peu de m'agacer. Je dirais simplement que la femme, par sa constitution, est donneuse de vie, même si évidemment le père joue un rôle essentiel, mais c'est la femme qui porte l'enfant pendant 9 mois et qui le met au monde. Elle est donneuse de vie là. Donc il y a cette capacité d'accueil peut-être. Moi ça me gêne de parler comme ça parce que ça a l'air de schématiser, mais voilà, dans l'évangile de Jean on voit très bien que ces 7 personnes, ces 6 personnes, ces personnages féminins tous accueillent sans réserve la révélation que Jésus fait de lui-même, sans réserve. Il n'y a pas de commentaires, d'arguments, de questions, elles accueillent toutes.
Ce qui vous fait dire que l'archétype féminin, c'est ça quoi, un archétype de l'accueil, en fait, d'une certaine manière.
Voilà, c'est l'Ève. L'Ève, je crois que j'emploie le mot restaurer, puisque le récit de la Genèse nous la montre un petit peu, parfois, de façon négative. C'est l'Ève restaurée, c'est-à-dire la femme qui accueille. Voilà. Mais l'homme aussi accueille, mais il lui faut un petit peu plus de temps. On voit bien que Pierre, il met un peu plus de temps pour accueillir. Hein.
Alors, vous finissez votre conférence avec une question un peu audacieuse, mais vous allez nous dire pourquoi. Comment ne pas se laisser tenter par l'idée que l'origine de la tradition chrétienne deviendra ensuite la source du quatrième évangile, qui a pu être influencé par les femmes. Le quatrième évangile, c'est donc
l'évangile de Jean.
C'est-à-dire, vous laissez entendre quoi que les... par cette question, alors je vais jusqu'au bout, qui deviendra ensuite la source du quatrième évangile et puis être influencé par des femmes, voire même soit né d'une communauté de femmes.
Alors ça, c'était un peu l'objet de ma thèse. Je vois au centre de l'évangile de Jean c'est ce couple de sœurs qui...
Marthe et Marie,
qui à Béthanie, dans cette maison... dans laquelle Marthe a un rôle d'autorité. Donc c'est dans cet endroit-là que...
Où Jésus aimait aller se retirer quelque part.
Alors, c'était en tout cas, il est dit que
comme
Jésus...
Comme une famille d'adoption, on a l'impression
Jésus
parfois.
Le texte nous dit que Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie. Il nous dira plus tard qu'il aimait aussi le disciple aimé. Donc, et c'est un verbe grec qui est employé, qui est très fort, c'est le verbe agapao. Qui est un verbe qui dit vraiment, c'est pas un amour qui a sa source en Dieu. Donc c'est vraiment ces femmes au centre de l'évangile de ces deux femmes au centre de l'évangile de Jean, et en particulier Marthe, a eu la profession de foi qui est vraiment le cœur de l'évangile de Jean, hein, de tout l'évangile de Jean, et met en évidence qu'il faut croire pour pouvoir, évidemment, on ne peut être sauvé que si on croit, dans la mesure où si on n'accueille pas la révélation, si on n'accueille pas le fait que Jésus est Dieu, la parole de Dieu incarnée, voilà. Or, c'est Marthe qui le dit au centre de l'évangile de Jean. Alors, je me suis demandé si ces femmes n'étaient pas... Alors, ce n'est pas elles qui ont écrit l'évangile, ni rien, attention, c'est pas ce que je dis, mais cet évangile, cette tradition orale qui donnera par la suite, sous la plume du narrateur qui est appelé le disciple aimé, si cette tradition orale ne serait pas née dans cette communauté de Béthanie, parce que c'est à cet endroit précis, à Béthanie, qui a cette première profession de foi, qui est vraiment le fondement de l'évangile de Jean.
Et quand on voit la profondeur de l'évangile de Jean, en tout cas, qui est, ouais. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins profonds, mais enfin, il y a quand même
c'est
une
différent.
Forme de...
C'est l'évangile spirituel par excellence. Enfin, voilà, il est d'ailleurs parfois un peu difficile à lire, parce qu'il a un vocabulaire qui est parfois à double sens, deux niveaux, donc il peut prêter, d'ailleurs, il y a des malentendus, on voit chez Nicodème, et même la Samaritaine, qui ne comprend pas toujours au premier coup, enfin, mais qui tout de suite se reprend.
Eh bien, merci Marie-Christine Chou de nous avoir pris par la main pour nous faire entrer dans l'évangile selon Saint Jean et découvrir ces femmes et leur place dans cet évangile. Et merci à vous d'avoir clos cette série d'émissions annuelles des femmes dans la Bible. Un grand merci à vous et à
merci.
La faculté de théologie.
Merci beaucoup.
À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.